Bonsoir à chacun. Tout à l'heure, on a vu qu'avec la réunion des anciens, que Dieu voulait faire alliance avec nous, que c'était un peu comme la signature d'un contrat. Là, je vais plutôt parler d'une lettre. Pour commencer, j'aimerais qu'on lise, même si on le connaît très bien ce verset, on va le lire quand même, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans une autre version de ce verset, je lis « Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. » On voit tout l'amour de Dieu qui veut protéger ceux qui se confient en lui. Et il ne veut qu'aucun ne soit perdu. La pensée de ce que je vais partager ce soir m'est venue en lisant dans la deuxième épître aux Corinthiens, pas sur le verset que nous allons lire tout de suite, mais sur un autre que nous allons regarder après. Mais pour introduire cette pensée, j'aimerais lire ce verset 2 du chapitre 3 de Corinthiens, chapitre 3, verset 2. Paul écrit « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. » En lisant ce verset, je pensais à la réunion de ce soir, je pensais à ce que j'allais apporter, et en réfléchissant dans mon cœur, je me suis dit « Mais et Jésus-Christ, quelle lettre n'est-il pas ? Si nous, on peut être une lettre de Dieu, à combien plus forte raison Jésus-Christ en est une, et une grande lettre. » Et à cette lumière, j'aimerais qu'on prenne maintenant le chapitre 2 de cette même épître, et lisons à partir du verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. « C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. » Je le relis. « C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. » Je suis obligé de rappeler un peu le contexte dans lequel l'apôtre Paul explique comment il a écrit la première lettre aux Corinthiens. L'église aux Corinthiens, c'est Paul qui l'a fondée. Et il a été attristé, c'est ce qu'on lit dans sa première lettre, de voir des choses mauvaises que lui n'avait pas semées dans cette église. Dans cette église, il y avait des jalousies. Il y avait des disputes, au point même que certains frères et sœurs se faisaient des procès entre eux. Il y avait des relations incestueuses. Il y avait des excès de table. Je ne sais pas si on peut dire jusqu'à l'ivrognerie, mais ça frisait l'ivrognerie, certainement. Tout ça au sein même, pas d'une communauté profane, au sein même d'une église. J'imagine avec quelle douleur l'apôtre Paul, quand il entendait ces nouvelles de cette église qu'il a fondée, il devait ressentir dans son cœur. Quelle était sa douleur? C'est lui qui avait fondé cette église. Et il était devant la tristesse d'entendre ces mauvaises nouvelles de cette église. Prenons un autre exemple pour éclairer ce vers quoi je veux aller. Imaginons des parents qui ont un enfant qui ne veut pas écouter. Et par rapport à cet enfant, les parents, dans l'amour qu'ils ont pour lui, vont l'avertir, vont lui dire « Arrête-toi, va pas plus loin parce que ça va mal finir. » Et les parents continuent, et ils voient leur enfant partir sur cette mauvaise voie et qui finit par mal tourner. On imagine très facilement les larmes qui devaient couler sur les yeux des parents. Et malgré les avertissements, cet enfant ne s'est pas laissé convaincre, mais il a persisté dans sa mauvaise voie. Et il se retrouve peut-être dans une situation où il peut être condamné. Imaginons quelqu'un qui, malgré les avertissements de la loi, se retrouve après à aller en prison. Ça arrive que des parents puissent retrouver leur enfant en prison. Cet enfant qui se retrouve sous une condamnation. Et là, nous avons affaire à l'église de Corinthe qui, pour lesquelles elle avait reçu des avertissements. Et l'apôtre Paul a écrit ces avertissements parce qu'il avait entendu de mauvaises nouvelles au sujet de l'église. Et on voyait, quelque part, il pouvait se dire, quel échec! Quel échec c'était, cette église! Il y a tellement de choses bonnes, mais à côté de ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ne va pas. Alors on peut comprendre les larmes avec lesquelles il a écrit la deuxième lettre, la première. Mais il y a aussi ce parallèle avec Dieu finalement. Parce que Dieu, il a créé l'homme à son image. Il a planté l'homme, si je puis dire, dans un beau jardin, avec tout ce qu'il fallait pour qu'il soit heureux. Et pourtant, l'homme a voulu suivre sa propre voie. Du moins, il a cru, parce qu'il n'a fait que suivre la voie du mal, et il s'est écarté. Et on retrouve finalement le même schéma, à savoir que Dieu a voulu sans cesse rappeler les hommes, les avertir, leur dire que la voie qu'ils prenaient n'était pas bonne, que ce soit par la loi, que ce soit par les conseils qu'il a voulu prodiguer à l'homme, que ce soit même par les avertissements des prophètes, l'homme a persisté dans sa mauvaise voie. Et finalement, on voit que quand l'homme a désobéi à Dieu, le péché est entré dans la nature humaine. Nous sommes tous dans ce même état. Et on ne peut, quelque part, on pourrait, si on lit le verset 37 de l'évangile de Matthieu au chapitre 23, on a cette parole très forte qui dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Et c'est tout le problème. Et une fois de plus, on se retrouve devant une situation où même Dieu pourrait se dire « Quel échec !» J'ai créé l'homme, j'ai voulu qu'il soit heureux, et il ne veut pas. Il ne veut pas changer d'attitude. Il ne veut pas se repentir. Il ne veut pas écouter mes conseils. Il ne veut pas être heureux. Et face à la condamnation qui est là, à cause du péché, notre nature pécheresse est séparée de Dieu. On ne peut pas être auprès de Dieu parce que le péché qui est en nous nous sépare de Dieu pour toujours. Nous sommes sous cette condamnation comme cet enfant qui n'a pas écouté les avertissements de ses parents. Nous sommes sous une condamnation. Et là, quand on relit ce texte de Corinthiens, il prend une couleur toute différente quand on imagine Dieu qui nous parle, qui parle aux hommes. Quand on pense à ce que Jésus-Christ a vécu, relisons-le, je vais vous le lire dans une autre version. Au lieu de venir vous voir, j'ai donc écrit cette lettre. L'apôtre Paul devait éventuellement pouvoir venir les voir et ça ne s'est pas fait. Et il a écrit. Je continue. Je l'ai fait dans une profonde affliction et dans une grande détresse intérieure. J'avais le cœur serré et les larmes aux yeux, car je voulais non vous faire de la peine, mais vous amener à reconnaître l'affection sans borne que je vous porte. Oui, tout particulièrement à vous. Le Seigneur Jésus, il est venu. Il a vécu un moment terrible dans sa vie, qui est le jardin de Gethsémané. J'aimerais qu'on lise les passages qui en parlent. Il y en a deux. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre de mémoire 26, nous avons affaire à une scène où le Fils de Dieu a justement le cœur serré. Il a les larmes aux yeux. Il est dans la souffrance, dans une angoisse terrible. Au verset 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. 26-36. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux s'étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. On voit tout le combat. Trois fois de suite, le Seigneur Jésus éprouve le besoin de refaire cette même prière. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici le reproche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Prenez avec moi maintenant la version de Luc. Luc, c'est très important, je précise que c'est Luc, parce que Luc, il est médecin. Luc, il est médecin. Et quand on lit au chapitre 22, Luc rajoute quelques détails par rapport à ce que Jésus vivait à Gethsémané. Après être sorti, il alla selon la coutume, verset 39, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment. On voit que finalement l'ange n'a fait que le fortifier, mais le problème est toujours là. Il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Ce jardin de Gethsémané, il était sur le mont des Oliviers. Vous savez ce qu'il y a dans les oliveraies ? Il y a des olives, il y a des oliviers, avec des olives dessus. Et voilà. Et dans ces jardins-là, il y a des pressoirs. Les pressoirs, on y met les olives avec, et on les écrase, on les broie pour en faire l'huile qui en découle. Et c'est tout à fait symbolique que Jésus, dans ce jardin, a été au pressoir. Il a été pressé. Et comme un fruit qu'on presse, il a été tellement pressé que quand il a eu ses larmes et sa sueur, le sang est sorti. À la croix, Jésus, il est mort. Son sang a coulé à cause des armes. C'était le clou, c'était la lance dans le côté, c'était les coups de fouet, le sang est sorti. Mais à Gethsémané, le sang, il est sorti aussi. Il n'y avait pas de coupure, il n'y avait rien du tout. Il y avait juste la pression des angoisses. Il y avait juste sa tristesse, comme il est écrit, jusqu'à la mort. Les larmes qu'il avait, parce qu'il savait qu'il portait le péché des hommes. Et ce n'est pas un hasard si Luc indique qu'il transpirait du sang, parce que c'est quelque chose de très, très grave. Et quand Jésus demande à ce que cette coupe s'éloigne de lui, c'est qu'il ne voulait pas mourir. De suite, à Gethsémané. Il voulait pouvoir aller jusqu'au bout de ce pourquoi il était venu sur la terre. Son corps, à tout moment, pouvait lâcher tellement il était pressé, tellement il sentait l'angoisse et la tristesse sur lui. Médicalement parlant, quand ça arrive, ça veut dire qu'à tout moment, le cœur peut lâcher. Et si Luc donne cette précision, c'est parce que là, à Gethsémané, se jouait un combat terrible, où le corps, quelque part, de Jésus était redemandé. Son corps ne pouvait plus suivre. Et l'ange apparaît, pourquoi ? Pour qu'il puisse souffrir encore plus. L'ange apparaît pour qu'il puisse endurer la souffrance, pour qu'il puisse aller jusqu'au bout, pour qu'il puisse subir les coups de fouet, pour qu'il puisse subir tout le mépris des hommes et de ses contemporains, pour qu'il puisse subir la croix derrière. L'ange est venu pour ça, pour le fortifier. Mais en aucun cas, la venue de l'ange a enlevé la souffrance qu'il avait. Ce texte me revient à nouveau. J'avais le cœur serré, les larmes aux yeux, car je voulais non vous faire de la peine, mais vous amener à reconnaître l'affection sans borne que je vous porte. D'ailleurs, l'apôtre Paul a une affection sans borne. Sans borne, c'est éternel, c'est l'infini, c'est la marque de Dieu. L'affection qu'il avait était éternelle. Jésus avait une affection éternelle. C'est la plus belle des lettres que Dieu pouvait nous écrire. Parce que Jésus a souffert. Parce qu'il nous aimait. Nous avons là encore une réponse à tous ceux qui peut-être pourraient se dire « Je suis angoissé dans la vie de tous les jours, j'arrive pas. Il y a telle et telle chose, j'ai pas de sous qui rentrent et je ne sais pas comment je vais finir mon mois. » Et chaque jour, on se sent comme oppressé, pressé par la situation qui ne va pas. Jésus, le pressoir, je peux vous dire qu'il connaît. Et s'il y a quelque chose que vous pouvez lui confier, c'est que quand vous vous sentez oppressé, quand vous vous sentez pressé de tous côtés, à la limite à faire sortir, Jésus, son sang en est sorti. On ne se rend pas compte, mais quand Jésus s'est présenté devant Pilate, il avait déjà le visage tout ensanglanté, il ne s'était pas lavé. Hein. On fait des dessins où Jésus est bien, nickel et tout, mais il a sué du sang toute la nuit. Il n'est déjà pas très présentable. Jésus a été pressé, tout ça pour qu'on puisse être sauvés. Il a souffert de l'abandon. Et nous qui pourrions aussi nous sentir abandonnés, on peut aussi savoir que Jésus l'a vécu. Jésus a été trahi par une personne de confiance. Jésus a choisi de souffrir pour nous sauver. Maintenant, on peut continuer. On peut continuer ce passage de Corinthiens. Je vais vous le lire dans une autre version. Si l'un de vous a été une cause de tristesse, ce n'est pas tant moi personnellement qui l'a attristé, mais vous tous, ou du moins la plupart d'entre vous, pour ne rien exagérer. Le blâme que lui a infligé la majorité d'entre vous dans l'Assemblée générale de l'Église est, pour cet homme, un châtiment suffisant. Là, dans notre cas de figure de ce que nous partageons ce soir, le châtiment, il a été subi par Jésus lui-même. Aussi devriez-vous, à présent, non pas aggraver sa peine, mais au contraire, lui accorder le pardon. Et le réconforter, consolez-le et encouragez-le, de peur que ce malheureux ne soit submergé par l'excès de chagrin et qu'il ne vienne à sombrer dans le désespoir. Je vous engage, imaginons que c'est Dieu qui nous parle, je vous engage donc à prendre à son égard une décision miséricordieuse. Faites prévaloir l'amour et redonnez-lui de l'assurance en lui montrant combien il vous est cher. Le but de ma lettre est atteint. Elle constituait une sorte de test. Je vous ai écrit pour voir si vous étiez prêt à manifester une obéissance totale en toutes circonstances. Dieu, il est venu en tant qu'homme par Jésus-Christ pour souffrir tout ce qu'il a souffert. Je ne vais pas revenir dessus. Le but, c'est de pouvoir nous pardonner du péché qui est en nous, de cette nature pécheresse. Dieu veut nous pardonner. Ce n'était pas du tout un échec. Dieu, par cette lettre vivante, qui est Jésus-Christ, nous fait savoir combien il nous aime, parce qu'il a souffert déjà, mais aussi parce que par ses souffrances, par ses meurtrissures, nous avons la guérison, nous avons la réconciliation avec le Père. Nous avons toutes ces bonnes choses que le Père veut nous donner. Nous pouvons nous approcher de lui. Sans crainte, parce que le châtiment, il est tombé sur Jésus-Christ. C'est ça la lettre que Dieu voulait nous envoyer. Elle a été écrite avec les larmes de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Seulement le problème, c'est qu'ici, dans le passage que j'ai lu de 1 Corinthiens, il est question d'une personne qui avait fait, certes, des choses mauvaises. Mais entre-temps, elle s'est repentie, cette personne. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul implore le pardon. Et c'est pour ça qu'on peut prendre ce texte, parce que Dieu veut nous pardonner. Mais il nous faut faire un pas vers lui. Il nous faut nous repentir de nos péchés. Quand on réalise ce qu'il a fallu pour que nous puissions être pardonnés, quand on réalise tout ce que Jésus a dû souffrir pour que nous soyons pardonnés, comment ne pas nous sentir sales devant ça? Comment ne pas nous sentir loin de Dieu? Dieu veut nous pardonner. Seulement comme cette personne qui s'est repentie, qui a demandé pardon, et qui a complètement changé d'attitude. La repentance, c'est quoi? C'est de demander pardon. C'est déjà une bonne chose, mais c'est aussi de réparer. C'est d'accepter de changer complètement de vie. C'est d'aller à la croix, demander pardon, le pardon de Dieu, et par la foi d'accepter le pardon de Dieu et de vivre une vie qui plaît à Dieu. Celui qui se place sous le calvaire peut être pardonné parce que le sang a coulé. Il y a eu des effusions de sang, comme l'écrit l'auteur aux Hébreux. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang a commencé à sortir dès le jardin. Du sang avec de l'eau, ses larmes. Et ça a continué jusqu'à la croix. Jésus a versé tout son sang, au point qu'à la fin, l'eau coulait. Vous savez, quand l'eau coule, c'est qu'il n'y a plus rien. Il a tout donné, le Seigneur Jésus, pour nous. Quelle est notre position ce soir par rapport à l'amour de Dieu? Le problème, c'est que Dieu ayant donné sa vie, Dieu ayant porté le châtiment, nous n'avons aucune excuse pour rester dans une position de résistance. Le Seigneur nous appelle et il nous veut auprès de lui pour notre bien. Mais celui qui résiste se fait plus haut que Dieu. Celui qui résiste se place au-dessus de Dieu. Et personne ne peut être au-dessus de Dieu. Et par là même, on est pécheur. Par là même, on ne peut pas être sauvé. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Il n'y aura pas de troisième lettre. Il y a eu une première, les avertissements. Il y a eu la deuxième qui a été le sacrifice de Jésus à la croix. Il n'y aura pas de troisième lettre. Le Seigneur Jésus, il revient bientôt pour chercher ceux qu'il aime. Est-ce que ce soir, tu es prêt à faire partie de ceux qui vont aller auprès de lui quand il reviendra? Jésus, c'était cette lettre d'amour de Dieu. Toute sa vie durant, Jésus n'a fait que bénir. Ses mains ont purifié, ses mains ont ouvert les yeux des aveugles, ses mains ont ouvert les oreilles. Par sa parole, les malades étaient guéris. Ses jambes l'ont amené à droite, à gauche. Et on a des passages qui nous disent par moments que Jésus était fatigué. Il ne s'est pas ménagé, Jésus. Tous, toujours dans le but de faire du bien aux hommes et aux femmes. Seulement, comment ce soir nous nous positionnons devant cet amour inconditionnel que Dieu avait pour nous? Pour conclure, j'aimerais juste citer deux versets qu'on trouve dans Ésaïe. Le premier au chapitre 54. Ésaïe 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Quel que soit notre état, l'amour de Dieu est là, il est présent, et il a été manifesté, humainement parlant, par Jésus-Christ. Il nous faut nous positionner. Et au chapitre suivant, au verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est près. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner, c'est vrai, mais encore faut-il qu'on aille à la croix lui demander pardon pour nos péchés. Encore faut-il que nous ayons cette attitude repentante devant notre état de péché. Courbons nos fronts quelques instants. Seigneur Jésus, nous sommes heureux d'avoir entendu cette parole. Nous sommes heureux de réaliser à quel point tu as souffert pour nous, à quel point tu as subi les angoisses, la pression, la tristesse, jusqu'à la mort, comme c'est écrit. Seigneur Jésus, quel amour tu avais pour nous, pour que nous puissions te réconcilier avec le Père. Seigneur, je te prie pour mes frères, mes sœurs, nos amis qui sont là ce soir, pour que tu puisses parler au cœur, que tu puisses, par ton esprit, tu puisses montrer notre état de péché encore une fois, Seigneur. Que nous puissions toujours réaliser à quel point tu nous as aimés, Seigneur, et ne pas négliger ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Merci pour l'action que tu fais dans chacun de nos cœurs, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Amen.